Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto. Tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Gilles Fagnien. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Essoufflé, comment se fait-il?
On a fait un peu
fort hier soir.
Entre le concert de Wilcox et puis la fin du spectacle de Bercy à Lille.
Ah oui, alors c'était bien
c'est exceptionnel.
Le Bercy Lille.
Exceptionnel, 23 000 spectateurs hier soir. 17 000 à Bercy, tout le monde est content, les organisateurs, la presse, je pense qu'on aura des bons
échos. Ça marche à moto à Lille, hein ?
Ça marche.
Dans le Nord, c'est
on sait. Putain de passionnés.
Bon, aujourd'hui, Gilles, on va parler de la fin du championnat Superbike avec cette fameuse victoire de Sylvain Gattoli.
Oui,
champion du monde. Je me souviens, il y a un mois, lors de l'émission, tu m'avais dit.
On n'osait pas y croire.
Non, tu dis, il va y avoir du mal. Alors que pourtant, il a été vraiment. Comment dire, alors je vais pas dire nul, hein, parce que quand on est pilote, quand on roule à des vitesses pareilles,
tétanisé,
hein, je sais pas, il a pas réagi sur les deux manches.
Bah, il avait peut-être pas les moyens de le faire en fait. Donc,
tu crois?
Ouais,
pourtant, il avait 12 points d'écart entre.
Du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux jouer le rôle du. Enfin, jouer le rôle du Lille, c'est pas toujours évident, jouer le rôle. Voilà. Hein. Donc du coup, Gattoli, bah oui, la bonne surprise de la saison. Et d'ailleurs, on en parlera parce qu'il y a un concours qui est lancé par la FFM, donc je vais vous en parler ce matin, pour élire à 50% par les rédactions et 50% ouais. par le public sur Facebook, le pilote de l'année, puisqu'il y a toute une liste de pilotes qui ont fait des performances cette année exceptionnelles. Il y a même des filles, hein, parce qu'il y a aussi la petite Livia Lancelot, qui a marqué, le seul femme au monde à avoir marqué des points
en motocross. C'est vrai qu'quand on regarde un petit peu les championnats, il y a le français un peu. Ça.
Donc je vous parlerai de ça ce matin en partie, avec un vote possible pour les auditeurs. Alors sachant que dedans, il y a aussi nos amis du GMT 94, Christophe Guillot qu'on salue, et que pour lequel moi j'aimerais qu'il y ait un maximum de vos suffrages, puisque évidemment la rubrique endurance,
oui, bien sûr,
pour faire le lien. donc il nous a toute l'année quand même alimenté la rubrique endurance, et c'est aussi la bonne surprise de l'année, c'est qu'il est aussi champion du monde.
En plus, oui. Et puis, il ne faut pas oublier Jules Cluzel, hein, champion de super sport.
Jules Cluzel,
deuxième.
Un jeune méritant. Il y a Loris Baz aussi dans la
liste.
Baz, un jeune extrêmement prometteur qui passe en MotoGP, hein, bien sûr. Oui. Ça va être un client pour vous, messieurs.
Ah oui, ça va être.
Et puis, on parlera aussi de l'endurance, hein, un calendrier prévisionnel 2015.
C'est ça, voilà.
Avec, on rappelle, le retour du boulder au Castellet.
Et ça, je vous dirai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent là-dessus, et je vous dirai, moi, les infos que j'ai eues en off.
Voilà. Ah oui, d'accord, bon. On parlera aussi de la 73e édition du Salon de la Moto et du cycle de Milan, hein, donc qui a fermé ses portes il y a une semaine, là.
Hein. Carrément,
là,
exceptionnel.
On va en parler, mais je trouve qu'il y a des trucs un peu dingues. Enfin, quand on voit la Kawa H2 à 325 chevaux, là, mais c'est pour qui, ça? Bah, de toute façon, ce sera pour la piste, hein, mais il y aura une version route.
Il n'y a pas que ça.
Quand même 280.
La plus belle, certainement, une des plus belles, c'était aussi la Honda donc, qui sort. Hein, donc réplique RCV,
oui,
213,
oui.
Qui va être une moto qui va être vendue aux alentours entre 150 000 et 200 000 euros. Alors c'est un peu comme les supercars.
C'est juste
fait.
Pour mettre dans le salon.
Il y a un peu de la surenchère là-dessus.
De l'autre côté, il y a un peu le truc, la V7 avec un anti-patinage.
Pour 48 chevaux.
Pour 48 chevaux.
Est-ce bien raisonnable? Ils auraient pu mettre la marche arrière.
On passe du coq à l'âne dans ce salon, c'est dingue.
Il y a tout et n'importe quoi, mais franchement, le salon il est immense. Il y a vraiment.
Bon, voilà, on parlera avec nos invités. Nos invités, eh bien, c'est Claude Bonduel. Claude,
oui,
bonjour. Et puis Nicolas Poiret, donc deux grands amateurs de sport moto et surtout de grands prix. Hein,
mais j'aime bien le Superbike aussi, sans problème.
Bien sûr.
Et surtout que Gattoli, c'est le deuxième pilote français en champion du monde qui a été champion du monde.
Juste après Raymond Roche.
Et Roche.
Il y avait quand même un bail. Hein.
C'est au tout début, en 90.
Ouais. En 90.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc on va revenir un peu sur ce fameux championnat du monde 2014. Hein, il n'y a toujours pas de secret, hein, comme tu disais tout à l'heure.
On va finir par parler espagnol,
ce sera plus simple, parce que Moto 3 espagnol, Moto 2 espagnol et Moto GP.
Oui, mais la résistance espagnol, petit à petit monte d'un cran quand même, je pense, derrière.
Les infos club, c'est avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour, donc des infos pour vous donner des idées de sortie.
Bien sûr, et puis forcément, le programme musical est signé Laurent Rodier. Tout de suite, on revient donc sur cette victoire de Sylvain Guintoli. Hein, c'est une semaine, il y a 15 jours maintenant. Donc, c'était la dernière épreuve du championnat Superbike donc mondial. Donc, on a un champion du monde, 32 ans. C'est le bel âge pour devenir champion du monde.
Voilà, on en a rêvé, il l'a fait, Sylvain Guintoli. 4 enfants quand même qui vit à Londres.
Ça va rien dire. Ça va aussi avec 4 enfants.
Non, mais 4 enfants, c'est la moto. Quand on est père de famille en plus et mener une carrière de sportif en parallèle de haut niveau. Parce qu'il n'y a pas, la Superbike, on est d'accord, c'est vraiment un sport de très haut niveau. Et ils nous ont offert cette année une saison, mais vraiment incroyable, puisque Guintoli, en plus, c'est quelqu'un qui s'était blessé, etc. L'année dernière, il avait fait une belle saison, mais cette année, il a eu du mal à revenir, en fait, parce que ça avait pris un peu d'avance en début de saison.
Il y avait 40 points à mi-parcours, à peu près.
Ouais, donc la marche était haute, il s'est vraiment accroché, et tout ce qu'on avait reproché à Guintoli, c'est-à-dire de ne pas être assez agressif, de ne pas être assez déterminé, etc., cette fois, il a démontré qu'effectivement, tout potentiel. Ceci dit, il faut quand même mettre un bémol à ça, parce que à Magny-Cours, par exemple, sur la manche de Magny-Cours, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, dont je ne sais pas si les règlements sportifs apparemment ne réprouvent pas. C'est-à-dire que c'est Marco Melandri qui l'a laissé passer
oui,
devant.
Oui, on a demandé. Bah juste, oui.
Alors
oui.
Marco Melandri qui
pour Saïk aussi. Hein,
on a aussi demandé à Loris Baz. Loris Baz qui était vraiment. Moi, je l'ai vu sur la grille de la deuxième course. C'était vraiment vénère. Il était fermé parce que il a pas supporté qu'on lui demande de faire ça. Mais du coup, il y a une logique d'équipe et non pas une logique de pilote. Alors, on se demande vraiment ce qui est plus important. Est-ce que c'est le titre constructeur qui prend le pas sur le titre pilote ou l'inverse.
Ouais, mais voilà. Combien de fois Mélandry est passé devant à l'aspiration et lui a piqué la première place en fin de saison? Ça est arrivé plusieurs fois.
Il y a au moins 4 fois dans la saison où il a fini devant à chaque fois. Mais
donc, c'est vrai qu'on a un beau champion du monde.
Donc, c'est à la marque.
C'est ce qu'on a demandé aussi à Baz. Hein, Loris Baz au Qatar.
Ouais,
hein.
Mais donc,
il a aidé Guintoli, Loris Baz, puisque il n'a pas joué le jeu. Il n'a pas joué le jeu. Il a bloqué Sky.
Mais bon, Mélandry non plus, il n'a pas joué le jeu pendant une fois, donc c'était un partout. Mais vraiment, on a vu qu'il y avait quand même une bagarre entre ces deux hommes, entre le Britannique et puis Sylvain Guintoli, qui pour le coup vit à Londres. Et du coup, Sylvain, et surtout ce titre pour Aprilia, qui a un palmarès méconnu mais en France, mais qui a un palmarès conséquent dans toutes les disciplines. Hein.
125
depuis,
de 50
et depuis
gagné,
de nombreuses années et donc ça fait encore un titre pour Aprilia face à Kawasaki. Donc là aussi il s'est joué un titre européen face aux japonais, aux usines japonaises. On a vu qu'il y avait vraiment une lutte. Alors du coup, ça c'est aussi illustré par le choix de Guintoli, puisque au lendemain de son titre de champion du monde de Superbike, il a signé en faveur de Pata Honda, donc il part chez la concurrence japonaise. Donc il sera dans l'équipe de Michael Vandermark, dont on pourra parler en super sport, puisque il a été champion largement avant la fin de la saison en 600. Et donc là, ça va être vraiment intéressant de voir ce que va faire Guintoli sur la Honda, puisque à sa place, Jonathan Rhee
qui était, est parti lui sur la Kawa.
Voilà, et donc Jonathan Rhee qui était quand même souvent aux avant-postes, souvent dans les premières lignes, voire deuxième ligne, mais pas plus. Enfin bon, donc on a une machine avec un gros potentiel.
Je crois qu'il y a aussi une autre raison, c'est le changement de réglementation. Parce que, en fait, la Aprilia risque d'être beaucoup moins compétitive, puisqu'on vient vers des motos qui vont être plus
alors,
stock.
Alors, je vais vous dire tout de suite, Aprilia retire ses billes de Superbike pour partir en Moto Grand Prix.
C'est ça, il part en MotoGP. En fait, Aprilia est parti en MotoGP. Mais ce qui va se passer, effectivement, c'est que la catégorie Open va devenir la règle. Et donc, du coup, on ne va plus avoir les machines de Superbike telles qu'on les connaissait, c'est-à-dire des prototypes. On va avoir des machines un peu aseptisées. Et du coup, les cartes vont être rebattues. Alors, ce qu'on regarde en Superstock, quand on regarde en Superstock, on va voir que le retour de BMW, qui est très bien placé en Superstock.
Elias qui va sur BM.
Bon, Elias est un peu en fin de carrière, mais je pense que Sylvain Barrier, notamment, il sera aux avant-postes. Donc on aura encore un pilote français de toute façon qui va se battre peut-être avec la Honda de Guintoli, mais effectivement, les machines Superbike proto telles qu'on les a connues n'existeront plus et on va passer des catégories un peu aseptisées, à voir si il y aura toujours le même spectacle, le même engouement des constructeurs, ça c'est pas sûr.
Donc c'est l'évolution un peu du règlement SBK.
Déjà, Aprilia a toujours joué dans la cour avec des prototypes vraiment bien conçus pour la course. Et c'est pour lui, un championnat comme ça, c'est un peu dévalorisant. C'est peut-être pour ça qu'ils vont essayer juste de vendre leur machine à certains pilotes, point final, mais pas faire de surenchère.
Keep on running, run, devil, run, run, devil, run, I'm here.
Termine avec le super bac, Gilles.
Oui, alors pour dire qu'effectivement, on a un vice-champion du monde aussi en super sport qui est Jules Cluzel, hein, qui a tout juste 20 ans, qui a fait évoluer une moto qui était a priori pas.
Pas du tout au point, ouais.
Pas du tout au point. Donc la MV Agusta F3, qui vient d'être d'ailleurs, dans une nouvelle version, vient d'être présentée au Salon de Milan. Et donc il a fait une saison vraiment remarquable.
Plusieurs victoires.
Plusieurs victoires et une constance quand même étonnante.
Et il n'y avait pas eu de victoire de MV Agusta depuis Agostini.
Ah bah là, c'était particulièrement remarquable.
J'ai pas vu ça.
Ouais. Oui, Jules Cluzel, il y a pas 20 ans, il y a 23 ans.
Ah ouais, non, mais
ça change tout. On est...
La précision.
Ah oui, non,
merci,
mais...
Claude. À ma droite, le scalpel.
C'est information.
Non, c'est
on
pas
serait...
très.
Décédé.
C'est quand même sa cinquième saison en Grand Prix, aussi bien Superbike que Moto Grand Prix.
Mais c'est vrai qu'il n'avait jamais été à ce niveau.
C'est vrai que cette année, c'est super.
Et là, il a fait une super saison. Il est vice-champion du monde. Et il a terminé brillamment sa saison.
Par une victoire.
Par une victoire au Qatar. Et donc, je crois que ça, c'était à souligner. Et on l'attend l'année prochaine, évidemment.
Alors que c'est une équipe qui a eu des difficultés financières en cours de saison.
Aussi. Hein.
Parce que c'était plus ou moins des Russes qui finançaient le truc et qui sont désengagés.
C'était Yaknish.
Ouais, voilà.
C'était Yaknish Motorsport qui avait pris, en fait, la promotion de cette.
Donc,
de cette
c'était pas serein du tout. Et il n'avait pas une équipe solide derrière lui.
Voilà. Donc, coup de chapeau. Jules Cluzel qui fait partie des pilotes dont on parlera quand même, essayer de parler brièvement du challenge FFM pour élire le pilote de l'année en fin d'émission si tu veux bien, la Miche, parce que ça c'est quand même un truc important. Et donc pour faire le parallèle avec le championnat de Superbike, parce qu'il faut que je fasse un mythe puisqu'on n'a pas le temps, et il y aura l'année prochaine une course de Superbike en Thaïlande, ce qui est une nouveauté. En principe, la Dorna va renouveler à peu près les épreuves qu'il y avait cette année, à peu près dans le même calendrier, sauf qu'on va ajouter au moins une ou deux épreuves, et là c'est confirmé, donc ça va se dérouler à Buriram, alors je sais pas où c'est, le Chang International Circuit.
Écoute, Gilles, voilà. Je connais pas. Hein. Donc,
en fait,
là, je connais pas. Là.
Ils recherchent les marchés émergents parce que c'est là qu'on vend la moto.
Ben, voilà. Donc ça se situe dans l'une des provinces au nord-ouest de la Thaïlande, hein, que ça peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. La piste, elle fait 4 km 554 de long, avec 12 virages dessinés pour des vitesses élevées, donc peut-être du spectacle en perspective. Et puis voilà, donc il y a eu déjà des sur ce circuit en octobre dernier, il y avait 131 000 spectateurs.
Alors oui, moi, j'allais dire, j'espère qu'il y aura plus de spectateurs qu'au Qatar. Parce
voilà,
que quand tu
je pense que la Dorna cherche aussi des circuits où il y a beaucoup de monde, où on peut faire des entrées.
J'ai un doute.
Je pense que ça, c'est
important. Je sais pourquoi, mais...
Donc, sachez qu'aujourd'hui, parce que le GP, aujourd'hui, où il y a le plus de spectateurs, c'est le Grand Prix de France. Hein, c'est presque sans discussion. Hein.
Et puis les...
ouais, depuis cette année. Hein.
Depuis cette année.
Ouais,
avant,
je pense qu'ils sont passés devant. Voilà.
Ouais.
Donc,
est-ce qu'on parle règlement endurance ou après le morceau de musique?
Alors pour l'endurance, non, je voulais juste vous parler du calendrier de l'endurance aussi, puisque on était dans le calendrier avec le SBK, c'est que on va avoir donc normalement une nouvelle épreuve a priori mi-septembre. Il y aura mi-juin.
Il y a une épreuve à Manicourt de 12 heures.
L'ouverture du championnat, ce sera toujours les 24 heures moto au Mans, parce qu'il y a à nouveau une inversion des dates.
Ils ont réinversé, on est revenu au départ.
Donc le Mans reprend ses droits sur le mois d'avril. Ensuite, en juin, normalement, il y aurait une épreuve à Zolder, en Belgique, c'est-à-dire pas trop loin d'ici, pour les amateurs. Ça va faire une belle balade pour ceux qui veulent aller voir course d'endurance. Le circuit de Zolder, il y avait déjà eu une épreuve il y a 3 ou 4 ans.
Alors ça va rester à confirmer quand même, hein, l'épreuve.
Alors l'épreuve de Zolder, ça reste à confirmer. Hein. Je vous dis, moi, les bruits de paddock, c'est ce que j'ai pour l'instant. L'épreuve de Suzuka mi-juillet qui va rester. L'épreuve de Charles-Leben qui va rester, ça c'est sûr, fin août. Et puis le bol d'or au Castellet mi-septembre. Et ensuite il y aurait aussi, alors je vois pas où il pourrait le placer ailleurs, fin octobre, les 2x6 heures de Manicourt. Et ça c'est vraiment une interview que j'avais réalisée du patron de circuit. Il veut, c'est un format 2x6 heures, c'est-à-dire deux départs. Une épreuve de 6 heures le samedi, une épreuve avec une partie nocturne et une épreuve de 6 heures le dimanche.
C'est plus de l'endurance alors là.
Si, c'est de l'endurance, mais en deux séquences. Voilà, ça sera de l'endurance en deux séquences. Une nouvelle formule que veut lancer Circuit de Manicourt après avoir perdu le bol d'or. Donc, et ça, c'est pas encore confirmé non plus, mais en tout cas, c'est ce qui est dans les tuyaux. Alors, concernant les doutes que certains ont sur le retour du bol d'or Castellet en disant le circuit n'est pas homologué, etc. Moi, j'ai rencontré Paul Duparc, qui est le responsable FIM. Il y a eu une commission technique de la FIM sur le circuit. Ils ont à effectuer un certain nombre de travaux, parce qu'il y a notamment un muret qui est un peu trop près de la piste qui doit sauter et être remplacé. Mais en fait, le circuit de Castellet serait bien homologué pour la moto.
Il y a le paddock aussi, il faut recevoir, il faut faire la Et les spectateurs, le public, ils vont.
Voilà, donc bah, ça, c'est.
Je me souviens qu'à l'époque, quand on allait au Castellet,
c'était très loin.
Alors, c'est très loin, d'accord, ça. C'est
non, mais je veux dire.
L'endroit où on.
Moi, je me souviens qu'à l'époque.
La piste est très loin des spectateurs. Trop loin.
Tu avais deux toilettes pour 60 000 personnes, donc c'était vite.
Ouais, enfin, le circuit a été modernisé.
Mais la place était un peu limite aussi pour planter la tente.
Par contre, il n'y a plus de gravier.
Enfin, là, il y a.
Mais par contre,
il n'y a plus de gravier.
C'est un circuit pour la voiture aussi, le Castellet.
Du coup, on avait un doute sur le fait que, est-ce que sans bac à gravier on peut homologuer des circuits pour la moto?
Alors, ouais.
La réponse, ça semblerait, c'est oui. Puisque j'ai vu Paul Duparc qui m'a dit la commission technique FIM a validé. Sauf que il faut faire une modif sur un endroit.
Ça serait peut-être pas
l'avis
de Christophe Guillot, peut-être, Gilles.
Christophe Guillot
qui a eu des problèmes justement à cause d'un dégagement qui était en bitume et pas en gravier.
Ouais, mais bon, c'est a priori ça va se faire comme ça. Il y a beaucoup de grandes chances que le bol d'or là se fasse à Manicourt sans aucun souci. Voilà.
Much more.
Bon, Gilles, on revient tout de suite là sur cette fameuse élection qu'a décidé la FFM.
Oui, une espèce
de petit jeu là.
Oui, alors en fait.
De voter pour le. Enfin, pas pour le meilleur pilote, enfin pour le pilote que vous aimez, que chacun apprécie.
Alors en fait, on a besoin des auditeurs. On a besoin des auditeurs en cette séquence parce qu'en fait, effectivement, le 26 novembre prochain, il y aura la conférence de presse FFM qui se tient chaque année et il sera élu, il sera récompensé là le pilote qui aura été élu champion de l'année pour ses performances. Alors cette élection se déroule avec un vote à 50% du public sur Facebook et 50% des rédactions de presse, d'accord. Et donc chaque organe de presse se concerte en interne, donc ça peut être le cas pour Kikinko, hein, je vous signale messieurs là, pour décider au sein de la rédaction qui sera son champion 2014. Alors parmi les pilotes éligibles à ce challenge, il y a effectivement Loris Baz, donc 5e du championnat du monde Superbike. Il y a Thomas Scharrer, champion du monde Supermoto, vainqueur du Supermoto des Nations, donc les frères Scharrer bien connus en supermotard. Grégory Cluse, champion du monde de sidecar. Rappelez-vous, on avait fait un article et on avait eu aussi dans l'émission. Dylan Ferrandis, 4e du championnat du monde MX2, vainqueur du motocross des nations. Le team GMT94. Alors là, c'est là où on compte sur vous, hein, parce qu'on va regarder après l'émission.
Ouais, il s'est passé quelque chose, parce que l'endurance, elle n'était pas
médiatisée.
Médiatisée. Ouais. Hein. Non, puis en plus...
On a voulu médiatiser à la base l'endurance, ouais, parce que justement, il y avait un déficit de médiatisation, qu'on sentait que ça allait peut-être mourir. Et du coup, là, maintenant, il y a un engouement pour l'endurance. Donc, champion du monde d'endurance, le team GMT, est éligible. Alors, comme Christophe Guillaume nous a toujours donné un coup de main, franchement, la Miche aussi...
Faut voter pour lui.
Voilà, bah, je pense que voilà, si vous pouvez, moi je lance un appel pour qu'on vote.
Non, moi je vote pas pour.
Non, mais pour que les auditeurs supportent l'endurance, puisque c'est ma rubrique, hein, donc je vous rappelle. Alors on a Jules Cluzel dont on parlait tout à l'heure, vice-champion du monde supersport, Steven Frossard, 5e du championnat et MXGP, vainqueur du motocross des nations. On a Valentin Giraud et Nicolas Musset, des célèbres inconnus, qui sont 5e du championnat du monde de sidecar cross.
Ah oui, incroyable.
Discipline extrêmement exigeante, hein, extrêmement cassante. Ouais. Alors on a Sylvain Gattoli, champion du monde superbike. Et on a Livia Lancelot, donc je vous le disais tout à l'heure, première féminine à avoir marqué des points en championnat du monde MX2.
Ouais. Donc moi je vote pour Livia.
Voilà. On a Alexis Masbou, messieurs du GP, hein, qui a fait un beau Grand Prix tchèque.
Il a gagné son premier Grand Prix.
Voilà, on a l'équipe de France ISDE, c'est-à-dire ça, c'est.
Ah oui, ils ont remporté
de l'enduro vainqueur. Vainqueur
ISDE, champion du monde en ISDE. Ouais.
On a l'équipe de France du motocross des nations qui ont été victorieux aussi cette année au motocross des nations. D'accord. On a Gauthier Paulin qui était un pilote de motocross qui a été 8e du championnat du monde au MXGP. Alors on a Pierre-Alexandre René, je vous avoue que lui je ne le connaissais pas, par contre il est vainqueur du Supermoto des Nations. On a Christophe Nambotin, champion du monde d'enduro. On a Johan Zarco, 6e du championnat du monde Moto 2. Et on a Jordi Tixier, champion du monde MX2, qui est aujourd'hui à Lille pour le SX de Bercy.
Et Magdi Miglio, non?
Donc non, on n'a pas de Magdi Miglio. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Magdi Miglio, franchement, c'est la honte pour nous.
Il y avait une mauvaise moto, je suis un peu provoqué.
Non,
mais donc, il va changer.
Et donc,
on va voir si vraiment c'est le pilote ou c'était la machine qui marche. Il y avait 30 bornes de moins sur la ligne droite.
D'accord, mais attends, on termine là-dessus. Donc le challenge FFM, c'est les votes du public. Donc les votes du public, nous, moi j'appelle franchement à voter GMT94. Ils ont fait une saison incroyable. Donc à la fin de l'émission, je regarderai si Facebook a monté. Juste, je vous dire qui est en tête quand même à l'heure actuelle, largement en tête. Je vous dis qui est largement en tête du challenge.
Non. Qui?
Mais largement en tête, c'est Livia Lancelot.
Ah, Livia Lancelot. Super.
Avec près de 300 voix pour l'instant.
Moi, je l'ai vu au championnat de France il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment
extraordinaire. C'est une belle femme en plus. Hein. C'est pas, tu vois,
Oui, c'est une belle femme, mais extraordinaire sur sa moto. Et vraiment.
Ouais, pour une fois, c'est pas un homme déguisé. Hein, c'est vrai.
Super.
Oui, Gilles. Yes, sir. Bon, allez, appelez-nous. Tiens, 03 20 91 24 00. Dites-nous un petit peu. Choisissez votre pilote. Comme ça, on aura un peu une idée un peu de ce que pensent.
Essayez de nous mettre d'accord parce qu'on n'est pas d'accord sur le choix.
Oui, on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je vote pas pour Olivia. Je vote pas pour Christophe.
Et puis, au GP, je sais pas, du côté du GP.
Je vais voter pour.
Du côté du GP cette année, non. Par contre, Jules Cluzel, je penserais plutôt pour Jules Cluzel, hein, parce qu'il a vraiment fait une détermination cette année avec une moto qui marchait une boîte de vitesse qui marchait pas.
Le gros problème, c'est que voilà, il y a des pistards ici.
Une vitesse de pointe bonne, mais.
on connaît pas trop.
On nous, a toutes les disciplines.
Toutes les disciplines et chacun va. Je me doutais que Claude allait voter pour un pistard. Ça c'est.
Ah pas toujours.
Et Nico, Nico, t'as une idée?
Ben je sais pas, mais en fait, je trouve que. La vitesse est plus médiatisée, donc forcément il y a de la chance. Et une fille en motocross, elle est plus médiatisée, donc elle a plus de chance. Donc en fait, c'est la bataille des médias. Donc ça me plaît pas trop en fait, ce genre de vote.
T'aimes pas? Non. Bah écoute, voilà quoi. Bah toujours, un auditeur nous a appelé.
J'aime pas quand il fait le son grognon celui-là.
Pour nous remercier du concert hier au Splendide.
C'était magnifique.
Et avec Sam Wilcox.
Personnellement, je remercie Sam Wilcox qui nous avait invité.
Et l'auditeur nous dit c'est vraiment sympa. Là, vous m'avez, j'ai pu rentrer et voir le concert et continuer l'émission. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal.
Merci à tous. Merci à lui.
Come out to play. Just don't care if those stars come out to play. Cause city lights and these fast cars, they keep on driving in my way. Oh, it just gets in the way.
Alors on parlait des nouveautés 2015, hein, les nouveautés des constructeurs. Le salon de Milan a fermé ses portes il y a une semaine.
Ouais, voilà, il y a l'ECMO, il s'appelle, son petit nom. Ça. Et à Cologne, c'est l'Intermote. C'est les deux plus gros salons. Et c'est vrai que le salon de Milan, c'est le salon roi. Voilà.
C'est le salon qui est énorme. Il y a 7 pavillons, contrairement à la France, où il n'y en a que 2, voire 3, ça dépend les années.
Et des constructeurs italiens, il y en a un paquet aussi.
Alors, il y a tous les constructeurs italiens.
Et
donc.
Il a fait un petit truc là, sur les salons. Là.
Bah oui, je me suis dit, quoi de neuf pour 2015 Et quelles sont les grandes tendances? Alors, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu la crise, et donc que la première tendance, ben, c'est le tuning. Le tuning, c'est... Ben, on met un phare plus petit, un guidon plus grand, du noir partout, et hop, on a un nouveau modèle. Hein, en fait, Harley fait ça depuis des années, ça marche bien. Avec 4 modèles, ils en font 25, et à coup d'accessoires. Et le pire, c'est que les acheteurs, ils rechangent tout après. Mais bon, en gros, Triumph fait un peu ça, en fait, avec la bonne ville. Hein, oui, il décline pareil. La bonne ville. La V7, pareil, on met un pot plus haut, on dit que c'est un scrambler, on change la couleur, on met un phare plus petit. Yam fait ça aussi avec sa vieille 1300XJR, ils en ont fait des cafés racers, ils changent de look. Donc, après, il y a d'autres modèles qui ont besoin d'être lookés aussi. Donc, c'était par exemple la Honda Crossrunner et la Kawasaki Versys, où ils ont fait un relookage, mais là c'était nécessaire parce qu'ils n'en vendaient pas, parce qu'ils avaient, une esthétique, spéciale. Hein. Bon, et ça c'est le premier truc, c'est le tuning. Hein. Donc ça a toujours existé, on prend un modèle existant, on le fait évoluer, ou on le décline. Le deuxième truc, c'est Monsieur Plus. Monsieur Plus. Monsieur Plus, parce que Monsieur Plus, il s'est fait plaisir. Hein. Il s'est bien éclaté. Le trail, KTM Adventure, il passe de 1190 à 1290, 160 chevaux. La Ducati Multistrada, moteur à distribution variable, 160 chevaux. Le nouveau trail sportif de BMW, il s'appelle S1000XR, 160 chevaux. C'est un 4 cylindres. Les sportives, la Panigale, elle passe de 1199 à 1299, 200 chevaux. La BMW SRR, 200 chevaux. La RS4 RR, 200 chevaux. La nouvelle Ninja avec son moteur turbo
là, ouais.
200 chevaux. Enfin, 300 en vrai, 200 chevaux pour l'homologation. Ouais,
Prochaine norme sur les autoroutes, 110.
Oui, alors, on se dit, comment ils font pour rouler avec des motos de 200 chevaux? Parce que 200 chevaux, c'était la puissance des 500 de temps.
Ah oui, hein,
avec laquelle ils se retournaient tous les 5 minutes. Et là, encore une fois, Monsieur Plus. Monsieur Plus. Alors, Monsieur Plus, avant, on avait l'ABS pour ne pas se mettre par terre quand on freinait. Maintenant, on a l'ABS Pro. Alors, c'est le même, mais ça tient compte de l'angle de la moto. Après, il y a aussi le contrôle de traction pour ne pas se mettre par terre quand on accélère. L'anti-wheeling pour ne pas se retourner. Le shifter pour plus débrayer en rentrant les rapports. Le contrôle de frein moteur pour ne pas bloquer la roue quand on rentre les rapports. Les modes de cartographie pluie ou énervé. Les suspensions pilotées électroniquement qui s'assouplissent sous la pluie et qui se durcissent quand on est énervé. Bon, bref, on a 200 chevaux, mais on n'arrive même plus à se faire peur.
Par contre,
on peut perdre son permis.
Alors, par contre, c'est vrai, il y a cette tendance tuning, mais d'un autre côté, il y a aussi des vraies nouveautés.
Il y a des vraies nouveautés également, effectivement. Donc, chez BMW, ils ont fait fort, ils ont un nouveau roadster. Là, avec le refroidissement liquide, ils étaient obligés d'enlever la fourche télélever, donc ils ont mis une fourche normale. Mais ils ont fait un modèle RS sympa qui est bicylindre Sport Touring. Chez Ducati, on a vu donc à Cologne le nouveau Scrambler.
Ah là oui.
Hein, sympa.
Là, je pense
belle
qu'il marche bien.
C'est un designer français d'ailleurs qui a fait l'esthétique. Et c'est la dernière Ducati qui conserve le moteur à air de soupape. Ça c'est bien tout ça. Mais par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'elle va être faite en Thaïlande. Et elle était. J'ai vu ce matin qu'elle avait été désignée comme étant la plus belle moto des salons cette année.
Ben écoute, moi, elle me tape bien dans l'œil. En plus, il y a une chose, c'est que maintenant aussi, ils sont bodybuildés tous. Ils font plus de 200 kilos, même pour une 600, alors que celle-là, j'ai vu que c'était autour de 170 kilos. Ben, ouais. Je trouve que c'est très bien.
Et il y a aussi Yamaha qui a fait très fort. Hein. Il a un trail routier de son roster vedette MT-09. Il l'appelait MT-09 Tracer. Et puis chez Yam, il y a aussi une nouvelle R1, hein, Gilles.
Alors voilà, c'est ça. Ça, c'était vraiment la vedette de Milan. Parce
200
que...
chevaux aussi, monsieur plus.
Moi, j'ai... Alors, c'est pas que ça. Alors, c'est pas que ça. Alors, contrairement à moi, j'ai pas vu la même chose que toi, parce que j'ai vu qu'à Milan, il y avait vraiment un vrai retour de la passion motocycliste par rapport à justement cette mode du tuning où on avait jusqu'à maintenant des salons relativement plats avec pas vraiment de grosses nouveautés et tout. Cette année à Milan, vraiment, il y a eu de la grosse nouveauté et il y a vraiment eu un effort de fait pour démontrer qu'il y avait toujours cette passion motocycliste et qu'elle était ravivée par ce salon. Moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai eue, notamment avec cette nouvelle R1, donc du coup avec une version M, version donc R1M, qui est une compé client, comme chez Honda avec la RCV 213, qui est une moto magnifique, qui a été présentée de manière vraiment très soft, qui tournait et tout.
Ouais, mais elle est inabordable.
Alors, elle est inabordable pour le commun des mortels. Par contre, c'est vrai qu'on sait toujours que les motos inabordables, un jour ou l'autre, elles deviennent abordables.
Ah bon?
Parce que, bah ouais, parce qu'avec l'obsolescence, eh ben,
au contraire, elles sont rares, donc elles sont chères.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a ces motos inabordables, mais qui justement inoculent un peu plus de passion dans le monde motocycliste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a un retour des investissements pour la recherche, pour le développement. Et ce qu'on a vu, ce que j'ai vu aussi, moi, c'est une tendance au cadre treillis. Qui a été adopté pratiquement par tout le monde. Dans toutes les marques, on fait des cadres treillis bientôt.
Copie Ducati.
Alors il y a ça, puis il y a aussi le succès de KTM, parce que les cadres treillis chez KTM ont montré toute leur efficacité, notamment dans plein de compétitions, le rallye routier, etc. Alors on a là aussi le Super Duke 1490, et c'est vrai qu'il y a une surenchère dans les cylindrées, etc. En plus, les rendements moteurs sont bien meilleurs qu'avant. Alors sur la nouvelle R1, ce qui est notable, et pourquoi...
L'éclairage à LED.
Alors non, ce qui est notable sur la nouvelle R1, c'est surtout l'architecture qui a changé. C'est-à-dire que l'ancienne R1, qui était de 2009, je vous rappelle, c'est quand même, ça datait un peu. Donc 5 plus 6 ans d'existence, bientôt en compétition. Aujourd'hui, elle a été réduite en largeur, ce qui fait que ça va permettre, notamment GMT et tous ceux qui vont l'adopter en 2015, d'avoir une bien meilleure garde au sol. Et donc, du coup, ils vont pouvoir augmenter les performances. Et c'est vrai que Christophe me confiait que la nouvelle R1 en version stock avec juste un échappement, un boîtier, était équivalente à celle qu'ils avaient développée pendant 5 ans sans rien faire.
Donc voilà. Ta question à poser, c'est quand même, c'est tous ces motos hyper puissantes, c'est pour rouler où?
Alors justement, il y a un certain nombre de machines, comme les machines sportives, qui sont destinées à entrer en compétition et dont il faut vendre un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir être homologué. C'est le cas en Superbike, c'est le cas aussi, pas en GP parce que c'est des protos, mais c'est le cas en Superbike et dans plein de catégories. Et donc du coup, c'est vrai que c'est juste pour les constructeurs une façon d'inoculer de la passion et de permettre à des gens d'aller faire des journées de piste qui sont de plus en plus blindées, les journées de circuit, il faut le dire.
Ouais, moi j'avais peur quand on reparlait de moto électrique, tout ça, mais ça reste quand même un petit peu.
Alors il y a eu un peu de tentatives, notamment j'ai remarqué qu'il y avait un Burgman qui sortait avec pile à combustible, mais c'est à l'état expérimental. Ouais, ceci dit, il faut s'attendre à l'arrivée de moto électrique, puisque si vous avez regardé les tendances de la voiture, en voiture, tous les constructeurs se sont mis à faire électrique à la demande des Chinois.
Ouais.
La Chine a une grosse demande de véhicules électriques et du coup, vu la taille du marché chinois, tous les constructeurs se sont mis à faire électrique et en moto, ça va être pareil.
Et moi, je voudrais poser une question à Nicolas, parce que je sais que tu roules en moto Guzzi, t'es quand même un fan de la marque.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, le truc là?
C'est du tuning.
Ça s'appelle quoi? Moi, j'aime pas. Hein.
Au départ, c'est.
Non, les goûts, les couleurs.
Au départ, c'est un 1400 California, ils en ont fait une version tuning. Mais c'est juste pour le salon.
Ah, c'est pour le salon.
Tu
vas pas retrouver ça dans les magasins.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour nous, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire des essais magnifiques.
Ah bon?
Ah ouais, vu tous les nouveaux modèles qui sortent, là, on a de quoi faire des essais. Dès que ça sort, là, on va pouvoir essayer des motos.
On va devoir faire des stages.
Il va y avoir des watts.
On va pas savoir exploiter 300 chevaux, quoi.
Il y a des watts.
300 chevaux, comment?
C'est tout électronique.
Ah, c'est tout
électronique. En fait, ça corrige les erreurs de pilotage. En fait, en gros, c'est ça. C'est que tu as des watts et tu as aussi l'électronique qui permet de compenser les routes glissantes, etc. Bon. C'est quand même ça va dans le sens de la sécurité, quoi.
Ouais, voilà, c'est la moto électronique, c'est moins dangereux, c'est comme les cigarettes électroniques, c'est pas le même goût, mais c'est moins dangereux.
Très bien vu.
I'm
Bon, messieurs, le salon de Milan, on ferme les portes.
Ah, on ferme les portes.
On prend la clé, on se barre, on reviendra l'année prochaine. Pas rien à dire, Nico.
Nicolas, ouais, on arrive au Moto 3.
Gilles, fini. Moto 3, on parle Moto 3. Allez, Moto 3, alors.
Alors, on va
saison
en Espagne,
2014. allez, on fait un débriefing et puis on parlera un petit peu tout de suite après de ce qui va se passer l'année prochaine.
Oh oui, et puis. Donc, le championnat était.
Pas
superbe.
De suspense, on va parler espagnol. Vous savez tous parler espagnol maintenant ?
Ah non, justement, du suspense en Moto 3, c'est peut-être la seule catégorie où il y a vraiment eu un suspense jusqu'au dernier Grand Prix. Et le titre s'est joué avec 2 points d'avance simplement à la fin du. Je veux dire, ça, tout pouvait basculer dans toute la course jusqu'au dernier virage même. On n'a pas cru. Tout le monde était. De toute façon, il fallait regarder. Heureusement, la caméra a montré plusieurs fois les team managers dans leur box. Ils étaient tous. Tendu, très tendu, je pense. Le moindre faux pas de l'un ou de l'autre, de Miller, Jack Miller, ou.
C'est parce qu'ils ont fait une bêtise aussi, sur un GP, là, ils se sont frottés et Marquez a profité pour.
Non, mais ils n'ont pas arrêté de se frotter toute la saison.
Et puis là, ils se sont cognés quand même 2 fois.
Et là, Marquez, il profite de l'erreur des pilotes.
Mais Marquez, il a bien joué, il faut reconnaître. Et puis, il était quand même chez lui. Par contre, il y a eu, je pense qu'il y a gardé ses nerfs. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, mais en fin de parcours, il a fait plusieurs erreurs. Mais cette année, il n'y a pas fait d'erreur. Il a fait 2 résultats blancs sur la saison. Miller a fait 3 résultats blancs. Voilà.
Miller a gagné quand même, en plus.
Et Miller a gagné. Ouais. Il a gagné 6 grands prix sur la saison. Marquez, qui est champion du monde cette année, a marqué que 4 victoires cette année. Et faut dire aussi une chose, c'est la première fois dans le monde que 2 frangins gagne un championnat du monde la même saison.
C'est embêtant, hein, parce que Garde Marquez en MotoGP, il risque de gagner encore au moins pendant 5-6 ans.
Oui. Hein.
Par contre, en Moto 3.
Si, il y en a un dans le studio qui fait des grimaces, mais moi je pense que j'en vois bien parti. Mais le pire, c'est que le frangin, il va arriver et ce sera encore.
Par contre, en Moto 3, ça risque d'être différent.
L'année prochaine, on va voir arriver
notre petit génie français.
On attend dans le futur.
L'année prochaine.
Ouais.
Bon, 2015, Fabio Quartararo.
Alors, c'est qui ce pilote ?
Fabio Quartararo. Deux fois vainqueur du championnat d'Espagne.
Oui, on lui a fait une petite faveur parce que normalement. D'après Nicolas, il n'avait pas le droit de participer.
Il n'avait pas l'âge, ouais.
Il n'a pas l'âge.
On a adapté le.
Sauf qu'il va avoir 17 ans. Hein.
17 ans, c'est 17 il y aura 17 ans, ans au mois d'avril. Que
et la saison, elle commence au mois de mars.
On a adapté le.
Ceci dit, ça fait comme 2 fois qu'il gagne le championnat d'Espagne.
Voilà, ils ont
ça
dit.
Une troisième fois, quoi.
Il n'y a plus de limite d'âge quand on a gagné 2 fois.
Il va chercher un peu.
Quel est le point commun avec le petit Alex Marquez, vous savez?
Non.
Même école, Emilio
c'est
Alzamora.
La même écurie et suivi
Emilio
par
Zamora.
Voilà. Par contre, le point commun avec nous, c'est qu'il est français.
Il est français,
c'est
oui.
Ça. Mais là, comme son nom ne l'indique pas.
Non. Comme son nom ne l'indique pas.
C'est vrai qu'on pourrait.
Mais bon, il est basque, hein, je pense.
Il est basque, oui.
Oui, mais bon, voilà quoi. Donc, on peut. Alors, il a fait des temps. Il y a eu des essais là, qui ont été faits il y a 15 jours, apparemment. Et puis,
les essais,
il est pratiquement sur les.
Alors, non, en fait, il n'y a pas eu d'essais encore.
Non, mais les temps qu'il a réalisé.
Mais par contre, les temps qu'il a fait sur les circuits qui sont les mêmes que ceux du championnat du monde montrent qu'il est au niveau, qu'il sera en première ligne. Voilà. Donc, on sait qu'il a un bon potentiel.
Donc, Marquez passe en Moto 2 aussi. Le champion, fatalement, passe dans la catégorie supérieure.
Et Miller en Moto GP.
Et Miller, le deuxième qui s'est battu.
En Moto GP,
il part en Moto GP.
Ça, je comprends pas.
Non. Il y a eu des antécédents, même pire que ça. Ça veut dire qu'il y a eu un pilote australien qui a fait la même chose, qui est passé de 125 cm3 à 500 cm3. À l'époque, il y avait une sacrée marche. Il a mis 2 ans à se mettre dans le rythme et il était pas mal.
Ouais, parce qu'il n'y a aucun réglage sur un Moto 3 par rapport à une Moto GP, c'est de la folie. Il y a tout à apprendre en fait.
À Moto 3, il y a un réglage quand même. Hein.
Oui, bien sûr, mais.
Mais vis-à-vis de la Moto GP.
Moto 2, c'est une bonne approche parce qu'il y a le châssis, c'est celui qui fait la différence.
Oui, mais certains techniciens disent que justement, une personne qui sait très bien piloter a des informations très neutres, justement, n'est pas parasité par d'autres informations qu'a mis au point au fur et à mesure du temps vis-à-vis de ces informations qu'il doit donner. Donc on verra.
On va le voir à l'œuvre.
Je voudrais parler de notre. Surtout que c'est un pilote de notre région, hein, du Nord, Lillois en plus.
Oui.
Danilo.
Le petit Danilo qui
passe,
était notre invité.
Qui va changer de.
Qui a marqué
des
marques,
hein, qui était Malandra.
Ouais.
Et pas chez Honda, là. Donc,
qui est encore en phase d'apprentissage.
On a regardé un petit peu les résultats. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. hein, pourquoi voilà. pas
Mais qui a fait des très belles prestations, notamment même après avoir chuté, des belles remontées, qui s'est battu aux avant-postes à un moment donné en début de saison, et puis enfin aux avant-postes.
Oui, plusieurs fois dans le paquet des points. Voilà, dans le paquet des points, il y a souvent pêché dans les derniers temps en bagarre. Ça lui manque justement des bagarres avec des pilotes qui sont confirmés. Il a fini souvent 17e, 19e, 20e, mais une fois dans les points quand même.
Ouais. Donc on va terminer sur cette catégorie Moto 3. L'année prochaine, on pourrait
avoir un champion du monde français.
Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Justement, il y a plusieurs pilotes aussi. On n'a pas parlé des rookies qui ont montré vraiment bien leur nez. Il y a Bastianini. Qui est un tout nouveau
tout
pilote, hein, qui a terminé 9e au championnat du monde en 125, qui est énorme. C'est énorme déjà la marche. Et Anika aussi, qui a fait de très belles prestations, qui était le coéquipier de Miller. Et donc qui a fait de très bonnes prestations.
Et en termes de machines aussi, on n'a peut-être pas dit, mais c'est KTM.
Ah, il y avait KTM et Honda.
Et Honda, voilà.
Mais Honda, justement, a caché son jeu, parce que toute la préparation de championnat, ils étaient... allez, le meilleur temps, c'était dans les 7e, 9e temps. Tous les KTM étaient devant. Et arrivé au premier Grand Prix, et ben, on s'est rendu compte que c'était pratiquement... Honda était légèrement inférieur sur les 2 ou 3 premiers Grands Prix, mais après, ils se sont envolés, quoi.
Moi, je trouvais que c'était assez équilibré, hein. La preuve, c'est que Miller s'est bagarré jusqu'au bout.
Ah oui, oui, non.
Par contre, les premiers titres pour Honda en Moto 3.
Mais justement, dans la saison, Miller a. KTM a augmenté la puissance de sa machine et l'a cassée. Dans un Grand Prix, Miller a perdu 2 machines. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont dégonflé et qu'ils n'étaient plus performants parce que la machine était moins puissante que les Honda. Ah ouais.
Bon, on va terminer avec cette catégorie Moto 3, sinon on ne pourra pas parler de Moto 2 et Moto GP. Oh, okay. Vous savez, on a une demi-heure de plus, mais malheureusement, on s'en sert toujours pas. Donc, on va passer un petit morceau de musique, enfin un morceau de musique normal, hein, Laurent, et puis voilà, on se retrouve après. On revient tout de suite, mais pas longtemps, hein, sur la Moto 3, parce qu'il va y avoir. On va faire la correction, hein, c'est Sébastien. Ouais, voilà, qui nous a dit non,
oui,
c'est
15 ans qu'il a.
Et ouais. Donc, notre.
Quartararo, le français.
Ouais, Quartararo, ouais. Il a 15 ans, donc il va avoir 16 ans au mois d'avril. Et donc, on lui a autorisé de participer, de prendre l'engagement sur le championnat Moto 3. Ouais. Voilà. Et puis, il y a sa partenaire, qui ce sera la seule féminine dans le championnat.
Maria.
Voilà.
Maria Herrera.
Voilà. C'est l'heure des infos clubs, on est obligé de mettre maintenant.
Oui, les infos clubs. Alors pour le mois de novembre, je vous rappelle le 17e Salon Moto Légende à Paris, du 21 au 23 novembre. Et ce même week-end, vous avez la 18e Ronde des Sables à Lune Plage, organisée cette année par le motoclub du Littoral 59.
Bon, je vous propose de parler tout de suite de Moto 2. Alors là, pareil, espagnol. Hein,
mais oui, encore bon, espagnol, non, pas, mais là, on s'y attendait, hein, puisque le favori qui avait terminé derrière le championnat du monde, derrière le champion l'année dernière, Rabat, eh ben, lui a gagné largement. Je pense que là, il a dominé la saison, pas complètement, parce que justement, on dit souvent son coéquipier, c'est le principal adversaire, et son coéquipier, c'était Callio, ancien. On l'attendait pas du tout, je pense. Et il a montré des très très belles choses en milieu de saison et il avait rattrapé une bonne partie des points de retard. Mais Rabat, vraiment, il est
très régulier.
Très régulier. Mmh. Alors, il faut dire juste pour ça, juste une petite parenthèse, Rabat a abandonné son appartement en ville et il habite un motorhome sur un circuit, Almera, et il s'entraîne tous les jours. Et son but, lui, c'est de rouler. Que avec des motos, il utilise des pneus usés complètement et il fait des tours de circuit avec des pneus usés pour s'habituer.
Ah mais ça c'était pas
c'est vraiment au début quand il
était Rossi l'a fait en son temps.
Rossi
l'avait fait en son temps.
Il adorait justement partir avec.
Comme il disait, c'est pas le meilleur pilote, il se sent pas le meilleur pilote, mais beaucoup disent bah oui mais c'est le pratiquant, le bosseur, celui qui bosse le plus.
Et Rossi disait aussi qu'il y avait quelque chose de spécial cette année dans les champions. Parce qu'en fait, Rabat, c'est un super pote au frère Marquez.
Oui.
Ils roulent ensemble tout le temps, depuis toujours.
Donc, et le frangin aussi.
Donc, ils sont. En fait, c'est toute la même famille. Quoi. Ils disent c'est comme mon frère, on se connaît par cœur, ils vivent ensemble.
Et ils feront partie de la même écurie l'année prochaine.
Alors, dans les six premiers, donc, deux Espagnols, un Finlandais.
Un Finlandais, deuxième, oui.
Et deux Suisses.
Vinales.
Et le sixième, notre petit Français, qui oui. participe.
Zarco.
Avec lequel on peut participer au championnat de la FFM. Hein, il y a Zarco. Hein.
Ah ouais. Oui, et surtout, il y a le rookie, le petit nouveau de la catégorie, Vinales, hein, qui a terminé troisième et qui a été justement. L'année prochaine, il partira directement. Il ne fera qu'une année en Moto 2, puisqu'il va partir en Moto GP l'année prochaine.
Troisième pour sa première saison, déjà parti en Moto GP.
Alors, Lutti, quatrième. Thomas Lutti, là il m'a déçu
bonbon,
parce que je m'attendais que ça soit cette année qu'il soit champion du monde et il a vraiment perdu pied dès le début alors qu'à la fin de la saison là il a bien marché mais un peu tard.
Donc il va y avoir des changements pour l'année prochaine parce que les cadres apparemment on sait que le principe de la Moto 2 hein, c'est le même moteur hein,
oui.
hein, et c'est tiré au sort à chaque fois hein, et puis par contre il y a les parties cycles qui ouais. changent.
Et comme le Calex est le meilleur cadre maintenant tout le monde a un Calex.
Apparemment oui.
Tout le monde veut un Calex.
Ouais, voilà.
Oui. Les Suter ont du mal à voir mais à mon avis ça va se faire.
Il n'y en a plus qu'un.
Il y a aussi un cadre français, le Tech 3 hein, cette année.
Le Tech 3,
il n'est pas terrible non plus.
Il a fait, ah non, si, cette année c'est la première saison qui rentre dans les 10 hein. Schroeter a terminé 10e avec Tech 3 et en 18e position il y a Cardus qui termine
enfin,
aussi.
Enfin c'est pas non plus les top pilotes hein. D'accord.
Non, mais Schroeter est un très très bon pilote hein.
Donc on peut dire que pratiquement cette catégorie Moto 2 c'est vraiment le pilotage
Le réglage du châssis et le pilotage.
Alors le réglage châssis ouais. Ce qui prouve que forcément un réglage châssis et puis peut-être le choix des pneus aussi quand même
Mais ils n'ont pas grand chose comme choix, hein. Ils roulent avec la même chose ouais. hein.
Et Zarco, alors il n'est pas du tout à sa place, hein, ça, je pense.
Zarco, lui, a fait un début de saison, les trois premiers Grands Prix, il n'a marqué aucun point, il a pataugé. Après, il a fallu qu'il se reconstruise parce qu'il avait perdu vraiment
confiance
ouais. en lui, confiance en sa moto, confiance en. Il s'est reconstruit petit à petit et en fin de saison, il a été nettement mieux. Par contre, en course, il a toujours été un petit peu en dessous de ses performances aux essais et ça, on ne sait pas.
Il a fait des pôles et qu'il n'a pas réussi à confirmer.
Voilà,
4 troisième place.
Mais il a montré un très beau potentiel aussi.
4 podiums.
Ah oui, non, mais comme d'habitude, ça veut dire, je trouve que c'est pas une très bonne habitude, c'est qu'il va changer de
moto.
Team manager, hop,
et de moto.
C'est plus de moto.
Ah, mais il aura une Calex.
Il y aura une Calex. Ouais. Mais ça sera encore quelque chose à découvrir pour lui.
C'est son team préféré. C'est
Oui, mais ça fait quand même.
C'est le team avec lequel il avait gagné en 125.
Ça fait quand même le troisième en trois ans.
C'est Arrow.
trois motos différentes.
Mais il garde le même manager, je pense.
Je suis pas sûr.
Ah bon? Non. Il serait avec Laurent Felon.
À Follon, oui, mais c'est, ah. c'est pas un, c'est son... un aide, mais un peu en dehors.
C'est son manager, hein. Ouais. En Follon.
Et par contre, il y a Folger et Siméon qui est un peu déçu, non?
Folger, oui, non, Folger, il a débuté en faisant beaucoup de fautes, mais en montrant des choses, et après, il s'est cassé la figure, et il n'a pas remonté la pente en fin de saison. Par contre, il y en a des petits nouveaux, il y a Morbidelli, et il y a Salom. On l'a oublié, Salom. Qui était aussi, il se battait pour le titre en Moto 3 cette année. Là, il a vraiment montré ses capacités. Il a été un petit peu dans l'ombre de Vinales, mais il a montré vraiment de bonnes capacités. Hein. Et Morbidelli, jeune, prometteur, je dirais.
Ah, je m'excuse de t'interrompre, oui. Claude, mais je sais que c'est une bible que je t'écoute. Je pourrais t'écouter toute la nuit, toute la journée. Mais nous avons Christophe Tillemont au téléphone, en direct du Supercross, en fait du stade qui est pratiquement à 500 mètres de l'ici des studios.
Alors, tout près, hein.
Christophe ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour la niche.
Bonjour. Je sais que tu es là-bas, donc sur le terrain.
Oui, oui.
Et donc y a pas, ça, pour l'instant, il n'y a pas de spectacle.
Si, il y a eu les essais là qui viennent de se terminer. Et pour l'instant, c'est la séance des dédicaces, des autographes. Donc les paddocks sont ouverts hein, donc au public. Ça commence à se remplir. Le stade va ouvrir très prochainement, mais les paddocks extérieurs sont ouverts. Donc il y a le public là qui déambule à travers les stands et puis ça discute avec les pilotes. Les pilotes très zen. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec Mikko Potisek, donc j'en parlerai tout à l'heure. Tout se passe bien. Alors il faut dire que c'est quand même ceux qui connaissent le grand stade l'auront jamais vu dans cette configuration parce qu'en fait le demi-stade a été séparé en deux. Vous savez que c'est la Coupe Davis dans quelques jours. Hein, donc il y avait un match de foot. Il y avait Lille Saint-Étienne le premier, et puis le 3 décembre il y a Lille PSG. Donc vous voyez les enchaînements. C'est quand même quelque chose d'assez.
Oui, surtout qu'ils ont mis 15 tonnes de terre hein, sur la pelouse.
Alors oui. En fait un peu moins. Il y a 4000 mètres cubes de terre qui ont été ramenés ici, qui sont arrivés de Seclin. Des terres qui ont dû être stockées à Goncourt. Bah, on a été reçu par Pascal Auberti, hein, c'est le directeur du Supercross pour le groupe La Rivière Organisation. Donc il nous a expliqué un peu tout le montage qui a dû être fait. Il y a pas moins de 6 couches de protection sur la pelouse. Hein, donc la pelouse qui sera refaite pour le match Lille-PSG. Et donc tôle d'aluminium, contreplaqué, 20 mètres de terre pour pouvoir donc amener les camions. Il y a 240 camions qui sont venus donc en 6 jours ramener la terre. Et tout ça va devoir être démonté donc en 6 heures après la fermeture. Ah
oui, ça c'est une belle perf aussi. Hein.
Ce soir. Ouais, donc c'est vraiment assez gigantesque. On a donc les buts qui ont été aménagés. Alors, il faut comparer. Ceux qui connaissent Bercy, ça n'a plus rien à voir, puisqu'en fait, ici, on a une jauge de 45% en plus. On a multiplié, en fait, par deux la capacité. Hier soir, il y avait 24 000 personnes, et aujourd'hui, on en attend 20 000. Hein, d'ailleurs, au passage, ceux qui voudraient se décider, il y a encore des places. Hein, donc, le show commence à 15 heures, mais on peut arriver dès maintenant. Le stade, les essais ont ouvert à 11 heures, et le stade donc est ouvert au public dès à présent. Hein, donc, alors, ce qui est impressionnant, c'est toute la logistique. D'abord, on peut tirer un grand coup de chapeau aux bénévoles, puisqu'en fait, le groupe La Rivière, c'est 6 personnes qui travaillent à plein temps sur ce dossier depuis un an. Je reviendrai après sur les détails de l'organisation.
Non, on n'a pas le temps.
On a encore beaucoup à dire sur Moto. Non, tu peux, en deux secondes, fais une conclusion.
Simplement dire que le motoclub de Pécancour a 50 bénévoles qui participent, donc parmi les 250 personnes qui sont mobilisées sur ce projet, qu'on va donc voir parmi les concurrents évidemment des pilotes américains. Alors c'est très familial. Hein. Il y a j'ai discuté avec Pascal. En fait, le public qui vient, c'est des familles, c'est des locaux. Le public habituel de Bercy, il semble qu'il n'ait pas fait le déplacement, mais malgré tout, c'est un vrai succès populaire. On retrouvera donc le Supercross l'année prochaine. Et à la question de savoir si ils vont s'installer définitivement ici, il y a un équilibre financier à trouver et ils sont en train d'analyser et ils se décideront donc dans les jours qui suivent sur la poursuite ou non du dispositif. Enfin, c'est quand même 2 millions d'euros Bercy. Ici, on est certainement beaucoup plus, puisqu'en fait, il y a une logistique considérable. Et puis, ça négocie. Alors, pour la petite anecdote, les pubs, c'est pas des locaux, c'est des gens qui viennent de Haute-Savoie. Toute la logistique lumière, elle vient pas de la région, elle vient de Paris. Ça coûtait moins cher de les faire venir de Paris. Donc, je pense qu'il y aura des ajustements qui se feront dans les années qui viennent pour la suite. Hein, les autorisations, il nous a raconté comment il a passé ses vacances à gérer le stockage de terre, les sondages.
Ah oui, mais ça...
Mais les autorisations de dépôt, les analyses anti-pollution...
Ah oui, il faut faire aussi, oui.
Je vous passe les détails.
Très bien.
Donc l'ambiance, elle est en train de monter. Et cet après-midi, ça va vraiment être la fête ici.
Très bien, Christophe, de nous avoir parlé des coulisses de ce Supercross. Hein, parce qu'effectivement, c'est un sacré boulot quand même derrière. Il n'y a pas que le spectacle, il faut monter tout ça. Et puis voilà. Merci, Christophe.
Tout à fait.
Et on se retrouve dans 15 jours.
À bientôt.
Bon week-end.
Au revoir.
Allez, avant de parler de MotoGP, une petite info club.
Alors, donc vous rappelez la soirée couscous ce samedi 29 novembre, donc organisée par Kikinkuti Toupal, avec l'excellente présence de Christophe Marquilly. Et puis je profite aussi, hein, pendant que j'ai encore la parole, parce que vous parlez beaucoup messieurs, hein, donc à la fin de l'année donc approche, il faut donc penser à notre calendrier 2015 des motoclubs. Donc l'équipe bénévole de l'association Kikin Kouté Toupal œuvre déjà pour ce calendrier. Donc j'invite vraiment très rapidement les motoclubs à communiquer leurs manifestations ou événements pour l'année 2015. Et je rappelle que ces infos seront diffusées gratuitement dans le calendrier. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques sur notre site internet kincfree.fr ou sur notre calendrier donc 2014 et sur Facebook.
Très bien, on revient donc et on va terminer sur la catégorie MotoGP. MotoGP, on a tout dit, hein, c'est sûr là.
Pratiquement. Oui, à part
t'as tout dit,
Oui, mais il y a toujours plein de choses à parler. Mais sur les motos Grand Prix, oui, Marquez a encore marqué sa marque la deuxième année. La première année à la surprise générale. Cette année, il confirme, il affirme et il met un gros pavé dans la mare parce que
il a gagné 12 Grand Prix sur 18.
Ouais. Surtout au début, il a marqué surtout 10 grands prix d'affilée.
Et on a eu peur, hein. On a eu peur au début
qu'il gagne tous les grands prix. Hein. Certains se posaient la question, ils l'ont même avoué à la fin de la saison en disant qu'ils avaient une angoisse, c'est que Marquez gagne tous les grands prix.
Et il y a un petit problème, c'est que pratiquement aux deux tiers de la saison, là, il commence à faire des contre-performances en République tchèque.
Oui, mais c'est pas des contre-performances. Il a essayé certaines choses.
Juste un homme en fait.
Voilà. On s'est rendu compte qu'il a pris des risques alors qu'au début de saison il prenait pas de risques. En République Tchèque, il est parti devant tout de suite, alors que d'habitude il attendait toujours un certain moment pour partir. Enfin, il a fait des choses autres que ce qu'il faisait d'habitude.
C'est 10 grands prix d'affilée de début de saison. Il les a pas gagné tout seul. Hein. Il a pas fait la course en tête dès le départ. Hein. Il a eu du mal à plusieurs fois à revenir pour aller chercher la victoire.
C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est lui qui est bon ou c'est les autres qui sont mouillés?
Il y a eu du spectacle quand même.
Et surtout sur tous les terrains, mouillé, demi-sec, sec. Il a gagné sur tous les terrains. Donc il y a pas un endroit ou un moment ou un circuit où il peut pas gagner. Après, il y a une chance. Ça fait que la deuxième année qu'il court. Faut pas oublier. Il en reste pas mal d'années après à courir encore, Marquez. Donc, il y en a beaucoup qui se posent la question. Est-ce qu'il gagnera encore tout le temps et aussi fort?
Un
nombre d'années pas mal.
Il y a quand même un deuxième homme dans cette saison qui m'a, moi, vraiment marqué. C'est le grand Valentino
Rossi. Oui, il s'était.
Attendez. On va laisser parler les femmes.
Ah oui, alors, Valentino Rossi. Hein, pourtant, il n'était pas parti gagnant. Hein, vous écoutez, Valentino Rossi, on pensait qu'il était fini. Et en fin de compte, il est là.
On n'a jamais pensé qu'il était fini.
Surtout quand il a pris Yamaha au début et qu'il s'est senti un petit peu dépassé, il a dit qu'il se mettait 2 ans. Pour voir sa valeur. Autrement, il arrêtait tout.
Mais il vient de re-signer deux ans.
Il a eu une aide psychologique
parce que, comme Lorenzo, son coéquipier, avait une contre-performance en début de saison.
Alors, par contre, oui, alors,
ça lui a mis dans la tête qu'il était premier pilote Yamaha. Et du coup, j'ai l'impression que ça l'a aidé à se remotiver, à se regonfler plein pot.
Oui, mais il s'est fait opérer 2 fois pendant l'intersaison, Lorenzo. Il est arrivé un peu énervé parce qu'il y avait les nouveaux pneus qui ne lui plaisaient pas du tout.
Oui.
Il s'est embrigadé, il s'est enfermé dans sa bulle. Il n'a pas réussi à faire des temps. Il a essayé parce qu'il est parti comme un boulet de canon un peu trop.
Ça, c'est incroyable, Lorenzo.
Et il s'est planté complètement. Le deuxième Grand Prix, c'est pareil, il a fait un démarrage pratiquement une seconde avant tout le monde.
Il prend le départ avant le feu vert.
Avant le feu vert. Ouais,
le Grand Prix,
et puis
là,
il est parti.
Beaucoup d'erreurs.
Ouais, incroyable.
Mais surtout, Rossi, ce qu'il aime, c'est avoir des challengers.
Oui.
Et du coup, cette année, il a été servi. Et c'est ça qui le galvanise, je trouve, moi.
Ouais. Par contre, il y a eu un petit passage à zéro de Marquez et que Lorenzo a profité. Aussi bien que Rossi aussi, on a profité un petit peu, mais Rossi a été constant, Lorenzo n'a pas, il faut jamais oublier que Lorenzo, en fin de saison dernière, il a gagné les 5 derniers Grands Prix, c'est pour ça qu'on mettait favori.
Bien sûr, ouais.
Et cette année, il a gagné
un seul,
voilà.
Donc Lorenzo, Rossi deuxième. Et puis un qui, alors là on ne sait pas trop comment voir un peu
Pedrosa, il a fait un début de saison formidable.
On ne voit pas en championnat du monde. Hein,
il est condamné à être dans l'ombre.
Bah oui, à chaque fois il y a quelqu'un de plus fort que lui dans le même team, donc c'est difficile de faire quelque chose.
Il chute deux fois là.
C'est un très bon pilote. Oui. Pourtant il chute rarement.
Oui.
Lorenzo, il a aussi un autre truc qu'on a oublié de dire, c'est sur la pluie, ça va plus du tout.
Non, oui, il s'est fait peur il et je pense peur. Qu'il y a quelque chose qui va.
Il y a un déclic qui va
plus. Il faut qu'il reprenne confiance en lui.
Dès qu'il pleut, c'est terminé.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'avant, il était très bon.
Après, il y a aussi une chose dans le championnat. C'est les factories, l'arrivée des factories, c'est une bonne chose quand même vis-à-vis des anciennes catégories où ils panaient juste derrière. On a montré des très très belles choses, surtout aux essais, avec des pneus
tendre.
Plus performants, tendres, voilà, ouais. Et beaucoup plus performants, faire des bons temps.
Alex Espargaro, hein.
Alex Espargaro, oui, ouais. Il confirme justement sa valeur. La preuve chez Suzuki, il l'a embrigadé pour l'année prochaine. Donc,
Yannone qui a fait une belle saison aussi. Il a mené des grands prix. Hein. Yannone, il était première Ducati.
Yannone au niveau des essais, justement avec les pneus tendres, il a fait vraiment des super performances. Il a fait une pole, il a fait vraiment des débuts de grand prix. Il a été mal récompensé, je pense, parce qu'il a fait pas mal de chutes.
On n'est pas dans la même catégorie.
On n'est pas dans la même catégorie.
Et donc les temps qualifs sont permis parce qu'ils ont des pneus différents.
Ouais, voilà.
C'est ça qui fait la différence.
Ouais, ouais.
Surtout qu'Yannone, normalement, n'avait pas de moto officielle, mais pratiquement au 5e ou 6e Grand Prix, Ducati donnait exactement la même à Yannone.
Ouais, hein. Chez Pramac, hein.
Ouais, ils étaient chez Pramac. Et ils ont eu les mêmes moteurs, les mêmes machines chez Pramac. La preuve, c'est que l'année prochaine, Yannone passe en Ducati, mais officielle.
Alors, un pilote qui est pas mal aussi, c'est le petit Anglais, là, Smith.
Smith, il a fait un super fin de saison.
Smith.
Malgré
et son coéquipier Paul Espargaro,
et Paul Espargaro
en fin de saison, c'est sa première année, hein, c'est le meilleur rookie. Hein.
Ouais. Quatrième.
Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein.
Sixième
du championnat. Mais je pense que lui, il a un certain potentiel parce que finalement, il y avait en début de saison, on voyait plutôt son frère Alex, qui s'est montré très agressif et qui avait des.
Mais Paul Espargaro, n'oublie pas qu'il y a une machine officielle, semi-officielle, mais avec une machine avec la technologie.
Très bonne, hein. Une très bonne équipe. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Très bien. Alors qu'Alex, c'est quand même une machine.
Et alors l'année prochaine,
il y aura quand
même quelqu'un qui arrive. C'est Loris Bass dont on a parlé tout à l'heure, qui va arriver donc en MotoGP.
Il prend la moto d'Alex Espargaro d'ailleurs.
Voilà. Et donc il va être chez Yamaha Forward.
Ouais.
Et donc là, on va voir aussi un nouveau Français.
Un nouveau Français, oui.
Par contre, il va avoir un coéquipier qui va être un petit peu compliqué à faire aussi. C'est Stéphane Bradel aussi. Loris Bass et Stéphane Bradel sont dans le même team et. C'est un bon pilote aussi, un super metteur au point également, hein, donc il faudra quand même faire attention. Mais c'est bien d'avoir un coéquipier justement qui puisse mettre la machine bien au point pour en profiter.
On verra aussi Vinales qui va donc arriver. Donc on va parler des deux marques qui arrivent aussi dans le championnat, c'est Aprilia et puis Suzuki.
Aprilia et
Suzuki qu'on a vu à la fin de saison, enfin le Grand Prix du Qatar. Là,
voilà, dernier de Pugnette.
Et là, Suzuki a
roulé le jour d'après du Grand Prix. Il y a eu 3 jours d'essai. Et ils ont essayé pour la première fois leur Suzuki. Donc il y a Vinales et Alex Espargaro. Et Alex Espargaro a déjà fait des bons temps avec. Hein. Il a explosé le temps de Pugnet. Ouais. Donc Alex Espargaro, je pense que c'est un sacré pilote. Hein. Il n'aura pas la moto qui peut faire quelque chose encore l'an prochain. Mais c'est un sacré pilote.
Mais il peut faire des piges, bonnes piges hein, au niveau de la saison.
Et au niveau d'Aprilia, Aprilia, c'est pas vraiment. Il y avait déjà une Aprilia, hein, les Hart. Mais qui était plus des.
Pour l'instant, c'est un peu flou dans Aprilia.
Il y a 2 ans ou 3 ans, je crois.
Ouais.
Puisque le premier pilote Aprilia, c'est Melandri, normalement, qui doit revenir en moto Grand Prix. Le problème, c'est que Melandri n'est pas d'accord pour revenir en Grand Prix. Il l'a fait savoir. Il voudrait récupérer une Ducati. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop.
Il y a Bautista. Il va avoir une Avinta.
Oui, mais justement, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment un moteur vraiment, vraiment performant.
Alors, ils ont dit qu'ils allaient mettre la boîte Seamless en cours de saison l'an prochain. Donc,
ça, c'est possible.
Voilà, et deux Français, hein, engagés dans ce MotoGP en 2015. Loris Bass. Et Dimiglio qui change, hein, qui arrive chez Ducati.
Voilà. Ouais.
Alors, il ne change pas le team manager. C'est toujours le même.
On verra bien si c'est.
C'est toujours Avantia Racing, Racing rachète les motos.
Barbera, il avait la même moto que lui en moto de saison, et puis il a râlé, il en a eu ras-le-bol, ils lui ont donné une Ducati. Le bon qu'il a fait quand même avec cette moto, Barbera.
Oui, puis.
Quand même. Dès qu'il a pu cette.
Il a marqué des points, il
a fait quand même un sacré bon. Ouais. Donc je pense que ça peut pas être pire.
Qu'est-ce que vous pensez de Nicky Hayden? Il était champion du monde, ce gars-là, pourtant.
Il était champion du monde. Ouais. Mais il n'a pas une bonne moto non
mais
plus.
Il est en fin de carrière, Nick Hayden. Hein.
Ouais. C'est fini, aussi, Nick Hayden. Avec sa blessure, blessure au poignet.
Non, mais on ne voit jamais jouer dans les 6. Ou...
Il est en fin de saison. Il est en fin de carrière. Il y a quelques pilotes comme ça qui sont en fin de carrière.
Il a une Honda de compétition client qui n'est pas du tout compétitive. Son coéquipier non plus, il n'en sort pas. Donc. Non, je pense que c'est vrai que ça va être compliqué.
On s'est rendu compte qu'au début de saison, les Honda étaient quand même inférieurs aux Yamaha Factory. Hein. Les Yamaha.
C'était Redding qui était dans son équipe.
Oui. Il a tiré une meilleure partie quand même, Redding. Il a quand même fait une très très bonne saison. Hein. La preuve, c'est que l'année prochaine, il y aura une Honda, mais
officielle.
Semi-officielle.
Toujours pour 2015, c'est la toute dernière année pour Bridgestone. Et en 2016.
C'est Michelin qui arrive, qui aura pu marcher apparemment,
de fournir tous les pilotes.
Et l'année prochaine, ils pourront faire déjà des tests dans toute la saison.
Et aussi, 2016, ce sera aussi l'occasion aussi pour tous les teams d'avoir le même logiciel, hein, le même boîtier, Marelli, mais aussi le logiciel aussi, qui tout le monde sera équipé de du même système.
Des nouveaux pilotes français et un manufacturier français, on a de quoi. Regardez encore beaucoup de GP. Hein.
Bon, là, écoutez, messieurs, là, je suis. Mesdames aussi, je suis désolé, mais écoutez, c'est le générique qui arrive. Ouais. Voilà, on pourra faire encore une demi-heure, mais on peut pas. Voilà, écoutez, ben, on se retrouve peut-être au mois de mars, peut-être. Il y a 18 Grands Prix, hein, pareil que cette année.
Oui, c'est pareil. Pareil. Voilà.
Par contre, en Superbike, ça ne dépassera pas 15 Grands Prix, ça a été fixé par la Dorna.
Le quoi ?
En Superbike, la Dorna a fixé à 15 Grands Prix maximum la durée de la saison. Voilà.
Très bien. Claude ?
Oui, ben on peut dire que Marquez a marqué vraiment sa saison puisqu'il est champion du monde. Il a battu tous les records au niveau nombre de grands prix gagnés, 13 grands prix dans l'année. Il a battu Douane qui était à 12 et ainsi de suite.
Voilà. Et Rossi qui est revenu.
Ah, Rossi est bien revenu. Donc l'année prochaine, on va se refaire
encore 2 ans au moins Rossi chez Yamaha. Hein.
Et on va se refaire une petite au mois de mars.
Plaisir
à voir pour le début de la saison 2015. Oui, Laurent nous fait grand signe. On doit se quitter. Merci Gilles, merci Claude.
Salut.
Bon dimanche à tous. Et sur équipe 21, on peut voir Bercy.
Qui ?
Sur équipe 21. Gratuitement.
C'est gratuit. Allez sur équipe 21. Voilà. Merci Laurent pour ce fabuleux programme musical.
Au revoir.
Salut.